Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Alors, je me suis demandé récemment si c'était possible de devenir entrepreneur quand on était maman. Alors, quand on est maman, on peut être entrepreneur, mais ça dépend un peu de l'âge des enfants, parce que moi, je suis maman et j'ai développé mon activité. Mais justement, moi, j'ai attendu que mes enfants soient grands pour développer mon activité, pour vraiment choisir ce que j'avais envie de faire, parce que j'avais peur que ce ne soit pas compatible. Je me disais, c'est pas possible d'assumer une activité d'entrepreneur qui doit demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, tout en ayant des enfants qui sont petits et qui demandent forcément un peu plus d'attention. Et donc, du coup, je me suis posé la question et j'en ai discuté avec Delphine il n'y a pas longtemps. Et du coup, je lui ai dit, mais écoute, mais viens donc en parler sur le podcast pour me dire un peu, toi, comment tu fais. Donc, je suis ravie d'accueillir Delphine. Bonjour Delphine.
Bonjour Isabelle, je suis ravie de passer ce temps avec toi pour parler justement de la parentalité quand on est entrepreneur et quand on est salarié, parce que finalement, ça se rejoint aussi à comment jongler entre les différents pans de ma vie.
Bien sûr, parce que même quand on est employé, on peut avoir une vie tout aussi chargée, hein, surtout quand on a un poste à responsabilité et que du coup, parfois on se met un petit peu de pression aussi. Donc, comment concilier les deux? Alors déjà, Delphine, tu vas peut-être nous dire, qui es-tu?
Donc, moi, je suis une zen facilier-bulle. J'aime bien dire ça, en fait. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je suis maman de 3 enfants. J'ai quand même attendu que mon dernier ait 4 ans, pour 5 ans même, pour me lancer. Et c'est vrai que je suis admirative pour toutes les mamans qui se lancent en ayant la grossesse, quand c'est un premier en plus, des fois, parce que... Et j'accompagne les femmes entrepreneuses justement à développer leur activité sereinement sans y laisser leur bien-être, parce que j'aime croire qu'on peut être une femme, une épouse, une maman et une chef d'entreprise épanouie et de prendre du soin du temps pour soi. Et donc, c'est ce que j'accompagne dans mon programme.
Ah, c'est chouette, ça résonne vraiment beaucoup avec cette route de la sérénité à laquelle j'invite les auditeurs. C'est-à-dire que on peut vraiment concilier ces différentes facettes de qui on est en fait pour être sereine en fait au quotidien, même si on a un agenda chargé. Tu nous prouves que c'est possible, qu'il est possible donc de développer une activité tout en ayant des enfants qui sont jeunes, parce que attendre que le dernier ait 5 ans, franchement, 5 ans, c'est pas très vieux, hein, ils sont pas autonomes du tout à 5 ans, et d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont quand même autonomes de plus en plus tard. Et donc, comment tu fais au quotidien? Les astuces que tu as au quotidien pour faire en sorte de préserver cet équilibre?
Ah ben ça tombe bien que tu parles d'équilibre, parce que ça, c'est une notion qui m'est chère, parce que quand on parle, justement, souvent, on entend l'équilibre vie pro-vie perso. Et je ne sais pas toi, mais moi, au départ, équilibre, pour moi, je voyais la balance, et il fallait que ça soit 50-50. L'équilibre, maintenant, j'aime mieux l'imager avec une bicyclette. C'est-à-dire que quand on fait du vélo, eh ben, on cherche l'équilibre. Et il y a des moments où on le trouve facilement, et puis il y a d'autres moments où ça penche et on est obligé de rééquilibrer. Mais ce n'est pas forcément du 50-50. Et ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes, pour être épanouies, elles vont être très investies dans leur travail et avoir beaucoup de temps dans le travail et un peu moins dans le perso. Et ce n'est pas à juger et inversement. Et donc, moi, ce que je trouve important, c'est déjà de se poser la question de comment on est épanoui, de quoi on a besoin. Pour la petite anecdote, moi j'ai dans ma belle famille des mamans qui sont très investies et qui ont tendance à être mères au foyer. Et donc, même quand j'étais salariée, j'avais l'impression un peu d'être la mauvaise mère parce que je mettais mes enfants à la cantine, parce que je travaillais et que j'aimais mon travail. Et du coup, comme si on ne peut pas faire les deux. Une de mes astuces que j'ai remarquée, notamment avec mon petit dernier, c'est qu'en fait, les enfants, ils ont besoin que quand on est avec eux, on soit avec eux en pleine présence. Et du coup, ce n'est pas forcément la quantité, mais ça va être la qualité de temps qu'on va leur accorder. Et donc, quand mon dernier rentre de l'école, si je suis une demi-heure en pleine présence avec lui, c'est-à-dire sans pianoter sur mon téléphone, sans mais vraiment à faire un jeu ou quelque chose, après, il va accepter sans difficulté de vaquer à ses occupations et moi de pouvoir retourner à mon travail parce qu'il aura eu du temps de qualité et ça lui suffit. Et je crois que c'est ça aussi de pas confondre. On n'a pas forcément besoin de la quantité, mais par contre d'être vraiment avec lui quand on est avec lui.
Je trouve super intéressant cette notion d'équilibre, que tu ne bases pas sur un équilibre au niveau du temps, des heures, hein, comme si on devrait mettre un chrono. Là, je rentre le soir et puis je mets un chrono pour voir combien de temps je passe avec mes gosses. Mais en même temps, si je suis avec eux en pensant au boulot, en étant stressée parce que j'ai un dernier dossier à finir, un mail à envoyer, etc., bah, du coup, ce temps, il n'est pas du tout de qualité. Et en fait, moi, j'ai remarqué aussi que les enfants, quand on n'a pas un temps de qualité avec eux, ils sont toujours en train de réclamer davantage de temps parce que forcément, ils n'ont pas été nourris, quoi. Donc, ils sont là, maman, maman, j'ai en train d'essayer de vouloir nous raconter un truc. On les écoute, mais on ne les écoute pas vraiment. Mais du coup, ils nous le disent d'ailleurs, parfois, ouais, tu m'écoutes pas. Mais si je t'écoute, pas vraiment.
Tout à fait d'accord avec toi. Et puis, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est d'être très précis dans ce qu'on leur dit aux enfants. Si on va lui dire, bah là, je peux pas, je ferai plus tard, ça n'a pas de sens hein, pour un enfant, notamment un petit, il n'a pas la notion du temps. Hein. Plus tard, ça veut dire que dans 1 minute, il va revenir, il va dire, maman, c'est bon, plus tard. Ah non. Et donc, c'est de préciser, d'essayer d'évaluer en disant, bah, s'il vous reste un quart d'heure pour travailler, vous avez besoin d'être en concentration à travailler, que vous ne pouvez pas tout lâcher, de lui dire, écoute, j'en ai encore pour 15 minutes et après, je suis disponible pour toi. Et donc, ça permet aussi à l'enfant de savoir. Et moi, généralement, alors, soit j'ai un enfant que j'ai de la chance, mon fils est un ange, mais il le comprend et du coup, il l'accepte. Pareil. Ça m'est arrivé des fois où il me parle alors que je suis en concentration et je lui dis bah, je travaille. Ah, mais tu m'as pas dit qu'il fallait pas te parler. Et donc, moi, ce que j'invite, c'est vraiment les parents à exprimer aussi le besoin. En tant que parent, on a le droit d'avoir des besoins et de les poser à nos enfants. Et ça apaise les relations et c'est très chouette.
Ah, c'est génial, j'adore ce. Tu m'avais pas dit que fallait pas te parler. C'est tellement excellent. Ouais, mais c'est ça en fait, hein. Les enfants, il faut leur préciser vraiment ouais, ce qu'il faut faire, pas faire, enfin ce qu'ils peuvent faire, pas faire. C'est super intéressant parce que je trouve que on a tendance parfois à penser qu'ils savent en fait d'avance, hein, se rappeler en fait qu'il y a des notions qu'ils maîtrisent pas. Suivant leur âge, évidemment, tu n'es pas aussi précise avec le petit dernier qu'avec l'aîné qui a plus de notions et qui saura que quand tu lui dis je reviendrai tout à l'heure, c'est un petit peu plus facile ou pas?
Non, moi je dirais que, alors bien sûr, ils vont comprendre et ils vont peut-être plus savoir jauger de quand est-ce qu'on est concentré ou pas. Moi, le truc qui fait que mes enfants vont pas me déranger, c'est quand ils voient que j'ai mes écouteurs sur les oreilles. Mais sinon, si je dis rien et que je suis avec mon ordinateur sur les genoux, vu qu'ils peuvent me voir à différents moments avec un ordinateur et que parfois c'est du pro, mais parfois ça peut être du loisir. J'ai besoin de leur préciser des fois. Et tu vois, ça m'est arrivé l'autre jour avec mes ados, parce que les ados, ils sont aussi dans l'urgence, tu vois. Leur problème est urgent tout de suite maintenant. Et qui viennent m'interrompre. Et je dis, mais en fait, là, je travaillais. Oui, mais j'avais besoin de savoir. Donc, j'ai envie de dire, le cadre, de manière générale, c'est bien de le poser avec tout le monde et même avec les adultes, même avec son conjoint. Posons nos besoins, exprimons ce dont on avait besoin. C'est le meilleur moyen pour avoir des bonnes relations apaisées avec notre environnement.
Ouais, super. Donc leur être vraiment précis quand on leur dit qu'il faut attendre, quand on leur dit qu'on a besoin d'être concentré, de ne pas être dérangé, leur dire bah du coup ça veut dire que tu viens pas me parler parce que je suis en train de travailler, j'ai besoin d'être focalisé. Ok. D'autres astuces?
Eh bien, une astuce aussi, alors je ne sais pas si c'est vraiment une astuce ou une prise de conscience, ça n'a pas été facile pour moi, mais c'est d'arrêter de vouloir être une superwoman. Voilà. Et c'est la prise de conscience qu'on a des limites, on aimerait être parfaite, mais nous sommes parfaitement imparfaites et c'est très bien comme ça. Et du coup, ça va être de oser demander de l'aide, oser solliciter. plutôt que de ranger mon frein en disant, ouais, il pourrait m'aider. Ça, c'était typiquement ma mère en disant, bah, quand même, ton père, il pourrait voir que j'ai besoin d'aide. Je lui dis, bah, si tu lui formules pas, il n'est pas dans ta tête, donc il va pas venir. Par contre, si tu lui demandes, il se fera sûrement un plaisir de venir t'aider. Et donc, c'est d'échanger. Donc, ça peut être plus quand on a avec un conjoint ou même avec les enfants, de dire c'est quoi, de quoi on a besoin pour pouvoir travailler sereinement et comment on peut impliquer, embarquer toute la famille, aussi bien dans la gestion du quotidien, en fait. Je sais que souvent, on prêche de dire quand on est entrepreneur, c'est bien d'écouter son rythme, travailler avec son rythme, son chronotype. Oui, dans l'idéal, quand on est mère de famille, bah, ce n'est pas toujours facile parce que notre chronotype, eh ben, il ne va peut-être pas forcément avec les moments où c'est le moment de manger et que les enfants ne
Ouais.
vont pas nous dire pas de problème, maman, c'est ton chronotype, on reviendra dans 2 heures.
Ouais, précise, hein, précise, c'est quoi le chronotype? Parce que peut-être nos
Ouais.
auditeurs, ils savent pas.
En fait, le chronotype, c'est dire qu'on a un fonctionnement, tous des fonctionnements différents. Il y a des personnes on se sent plus du matin, d'autres plus du soir, ou d'autres qui peuvent travailler plus sur des horaires classiques de bureau. Donc, nous, on appelle ça, ils ont des noms d'animaux. Il y a l'ours, le loup, le lion et le dauphin. Et en fonction, ben, ça va nous permettre de définir notre organisation pour être optimum, parce qu'il y a des moments dans la journée où ça va être facile de rentrer en concentration et du coup d'abattre beaucoup de travail, et à d'autres plus difficile. Par contre, quand on est parent, bah, c'est pas toujours évident d'être en accord avec son chronotype. Et du coup, moi, une astuce que je disais, si par exemple la personne est plutôt du soir, on a conscience que le soir, souvent, c'est le feu à la maison. Voilà, c'est difficile de dire, bah, débrouillez-vous, moi je travaille. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être négocié avec le conjoint en disant, bah, une fois ou 2 fois dans la semaine, tu prends le relais, moi je me mets dans ma bulle parce que je suis efficace. Et du coup, c'est pareil, là, ça va dans la communication, de vraiment poser les choses et d'aller vers l'expression de son besoin.
Mais d'ailleurs, c'est difficile, hein, cette histoire de chronotype quand on est employé dans une entreprise. On fait 9h-17h ou 9h-18h. Et si on est efficace le matin au lever à 6h, ben, c'est un peu compliqué. Quand on bosse en entreprise, on est obligé un peu de s'adapter. Mais quand on est entrepreneur, on peut avoir tendance à penser que, allez, youpla boum, c'est la liberté, je vais pouvoir organiser mes journées comme je veux. Mais il y a des contraintes quand on a des enfants et il faut pas les oublier. Donc, de pouvoir négocier, en fait, avec le conjoint, ou même, est-ce que tu recommandes parfois aux parents de faire appel à une aide extérieure, sur certains moments?
Ah bah tout à fait, tu vois, alors moi, mon fils, le midi, malgré que l'école est pas loin de la maison, mange à la cantine et 2 soirs par semaine, il va à la garderie de 16h30 à 17h30. Alors on pourrait se dire, ah là, quelle mère indigne, elle est chez elle. Et en fait, si j'étais salariée, je ne le récupérerais pas. Et au début, j'ai été le chercher tout le temps. Et en fait, ça me saucissonnait tellement ma journée que j'avais très peu d'heures finalement où je pouvais être efficace et avancer et travailler. Donc là, c'est pareil, c'est à chacun de voir. Mais à partir du moment où on se sent frustré en se disant, mince, bah, ok, il vient manger, mais j'ai pas de temps pour travailler, il vaut peut-être mieux le mettre à la cantine certains jours ou tous les jours pour le soir, quand vous le récupérez, avoir le sentiment d'une journée accompli et d'être pas frustré, et de parce qu'inconsciemment on peut lui faire ressentir, sans qu'on s'en rende compte, lui faire ressentir notre frustration. Et donc j'ai envie de dire s'autoriser, quoi. Et puis même maintenant, moi, mon fils il me dit, ah, maman, mais c'est quand tu retournes, tu sors un peu, parce que moi j'aime bien la garderie. Donc c'est souvent on se met des barrières parce que on a l'injonction de la société, mais on peut les faire sauter. En fait, c'est vraiment ne pas se comparer aux autres mamans. Ça, c'est une des astuces, et vraiment être dans l'échange avec la famille, comment on vit, parce que chaque cellule familiale est unique et a son fonctionnement.
Ouais, puis les gamins, c'est un moment aussi, la cantine, l'étude, le soir, la garderie, où ils sociabilisent beaucoup avec d'autres enfants qui sont pas forcément des enfants qui sont dans leur classe. Ils retrouvent un copain qu'ils avaient dans la classe il y a 1 an, il y a 2 ans. Il n'y a pas à culpabiliser, quoi. En fait, quand on bosse, on est bien obligé de les laisser à la garderie le soir, hein. Personne ne peut être à 16h30 devant l'école, hein. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui permettent de partir à 15h30 ou à 16h. Donc ouais, je trouve que c'est bien de ne pas culpabiliser en fait. Et comment t'as fait pour sortir un peu du regard des autres aussi? C'est pas facile. Qu'est-ce qui t'a permis de parvenir à ne pas te culpabiliser par rapport notamment aux injonctions que tu, enfin, peut-être pas aux injonctions, mais que tu avais dans ta famille ou autour de toi, de personnes, notamment de maman qui ne travaille pas et qui considère que quand on fait des enfants, il faut rester à la maison, quoi.
Je me suis formée au coaching, ça m'a quand même pas mal aidée pour aller déjaguer mes croyances limitantes.
Allez tous faire une formation de
Non, mais blague à part, je me suis aussi questionnée sur qu'est-ce que ça représentait pour moi d'être maman et de me dire en fait qu'est-ce qui est important pour moi dans le fait d'être maman. Et ça m'a aidé à me libérer du regard des autres parce que je me suis rendu compte que moi, être maman, pour moi, c'est vraiment d'amener mes enfants à l'autonomie pour que le jour où ils vont déployer leurs ailes, ça ne soit pas le cataclysme, ils se prennent une grosse claque dans la figure parce que, ils ne sont pas préparés. Et donc, je suis plutôt une maman qui amène à l'autonomie. Et je me suis jamais reconnue, pour le coup, ça peut être difficile, mais jamais reconnue dans le rôle de mère au foyer, en fait. Et moi, j'adore mes enfants, j'ai besoin d'une famille, mais par contre, le rôle de Cendrillon à la maison, c'est vraiment pas moi, quoi. Et donc, par la force des choses, je pense que j'ai posé un cadre des choses. En fait, j'ai amené ma famille à évoluer. Et c'est un de mes conseils aussi, c'est de dire, soyez le changement que vous voulez voir chez les autres. Et donc, une petite astuce que j'ai eue, par exemple, chez nous, la vaisselle, c'est toujours, malgré qu'on ait un lave-vaisselle, vu qu'on cuisine, il y a toujours quand même des casseroles et des choses. Et c'est toujours la bataille, qui va faire la vaisselle. Et du coup, pendant plusieurs semaines, je ne demandais rien à personne, je faisais la vaisselle et tout le monde appréciait finalement qu'il n'y ait pas une montagne de vaisselle dans le lit. Et donc, une fois qu'ils ont perçu le plaisir d'avoir plus de vaisselle, et ben là, j'ai posé des choses en disant, bah voilà, ça fait 2 semaines que c'est moi qui fais la vaisselle, je ne vais pas le continuer en permanence. Par contre, vous avez vu comme c'est agréable, je propose qu'on mette en place un tour de rôle. Et à chaque fois, l'idée, c'est vraiment de faire valider le fonctionnement par la famille. Et donc, quand je dis soyez le changement, c'est amener déjà le changement pour que les personnes puissent s'en toucher le bénéfice et après les intégrer pour leur donner envie de poursuivre. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui marche plutôt bien.
Ouais, de voir le bénéfice qu'il y a à avoir une maison rangée, de voir le bénéfice à avoir qu'il y a de, enfin, je pense aussi par rapport à l'autonomie des enfants où on a tendance à vouloir faire tout à leur place. Ben, le jour où ils ont sport, c'est peut-être à eux de préparer le sac. Il y a des petits détails comme ça qui font que ben après, ils voient l'intérêt d'avoir les affaires préparées la veille et de pas courir le matin ou de pas être en stress parce que je sais pas où j'ai mis mon short, mes baskets, où elles sont. Et donc, progressivement, donc, de faire prendre conscience du bénéfice qu'il y a à faire les choses et du coup de le mettre en place.
Tout à fait. Moi, par exemple, en fait, dans le système qu'on a familial, les enfants assez petits allaient dormir le mardi soir avec moi chez les grands-parents, parce qu'ils restaient le mercredi chez les grands-parents. Et mes filles, même petites, hein, tu vois, elles avaient, j'ai du mal à dire, hein, mais je suis sûre qu'à 8 ans, elles étaient autonomes pour faire leur sac pour la nuit. Et après, eh ben, quand on partait en vacances, elles préparaient leur sac des vacances. Et le truc, c'est que moi, je venais et on vérifiait ensemble. Mais c'était elles. Et en fait, c'est une satisfaction aussi, une autonomie. Elles ont choisi leurs vêtements. Et donc, c'est de les amener et alors d'avoir conscience de c'est quoi leur capacité. Et du coup, de assez vite leur proposer parce que, ils sont acteurs et que. Au même titre que nous, ils vivent dans la maison et c'est un peu comme on est une mini société, une mini entreprise, quoi. Il faut que tout le monde y mette la main à la pâte pour que ça tourne.
Ouais, je trouve super intéressant donc de se poser la question de savoir quelle maman on veut être. Voilà, pour ajuster les choses déjà au départ. Et est-ce que de temps en temps, tu culpabilisais de ne pas avoir assez de temps pour ton entreprise?
Alors, oui. Notamment pendant les vacances, parce que c'est génial, les enfants ont des vacances scolaires et ça revient toutes les 8 semaines, 2 semaines. Et au début, ça me rendait dingue. Je me disais, mais comment ça, ils sont déjà en vacances, mais je viens de les remettre à l'école.
C'est vrai.
Et plus je me disais que pendant ces semaines-là, j'allais faire comme quand ils étaient à l'école, plus j'accumulais de la frustration, de l'agacement, et du coup, c'était un temps qui n'était pas agréable pour tout le monde. Donc, ce que j'ai fait là, eh ben, généralement, j'ai la chance d'avoir des papiers-mamies. Mes enfants aiment aller chez eux, les papiers-mamies aiment les recevoir. Donc, ils y allaient, tu vois, l'équivalent d'une semaine où je me disais, bah là, pendant cette semaine-là, je peux carburer. Et la semaine d'après, ils seront à la maison. Je pourrais toujours travailler, mais de manière plus light. Et à partir du moment où j'ai changé, voilà, mes objectifs pendant les vacances, mon organisation, eh ben, maintenant, c'est un plaisir quand ils sont en vacances. Bon, je trouve quand même que les vacances reviennent souvent.
Ouais, mais c'est plus aussi frustrant qu'avant, quoi.
Ah ouais, non, non, ça, c'était vraiment... C'était pas drôle, quoi. Sans frustrer, parce que t'as qu'une envie. En plus, quand on est au démarrage, quand c'est le démarrage, t'as qu'une envie, c'est d'avancer, tout ça. Et tu dis, ah mince, ben là, c'est des vacances, je vais pas pouvoir... Et c'est de... Du coup, ça aussi, c'est une astuce, c'est de vraiment se poser la question de quel est le temps disponible qu'on a à consacrer à son activité. Et qu'on ait ou pas des enfants en fonction de vos centres d'intérêt. Si vous aimez faire du bénévolat et que ça vous prend du temps, et ben vraiment prendre le temps de calibrer combien de temps je veux consacrer à mon entreprise et du coup de développer les objectifs en conséquence pour ne, justement ne pas s'épuiser dans son entreprise et être frustré de dire bah, en fait je suis au service de mon entreprise et c'est plus mon entreprise qui est au service de ma vie. Donc ça
Ouais,
j'invite
donc ouais,
vraiment.
donc il faut se poser aussi la question de savoir quel type d'entrepreneur on veut être aussi dans l'énergie qu'on va y mettre et la vitesse à laquelle on veut faire croître aussi son entreprise, hein.
Ouais, c'est pour ça que, tu vois, là, moi, j'anime bientôt un atelier où je trouve que ce qui est très important, c'est d'analyser de combien tu as besoin pour vivre. Voilà. Et quand je dis pour vivre, c'est pas survivre, c'est vivre et prendre en compte si tu as des projets futurs à l'avenir. À combien s'évaluent tes prestations, tes produits, en fait, fixer tes prix. Et de voir, bah, est-ce que si tu développes en rythme de croisière, est-ce que ça te permet de vivre de ton activité et d'intégrer la métrique du temps, c'est-à-dire pour développer mes produits, mes prestations, combien de temps ça me prend, est-ce que du coup ça rentre dans le temps disponible que j'ai à mon activité? Parce que quand ces équations ne sont pas au vert, ben, le risque, c'est soit d'être fauché et de ne pas pouvoir vivre de son activité, soit d'être épuisé et de toute manière d'arrêter. Et donc, de se poser la question quand on est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de combien de temps je dispose déjà pour être en rythme de croisière? Est-ce que j'ai 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans? Et combien de temps hebdomadaire je souhaite consacrer ou je peux consacrer à mon activité? Et du coup, de faire un plan de développement qui soit en cohérence. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de pouvoir tenir la distance.
Oui, ça aide aussi à avoir des objectifs qui sont réalistes, hein, parce que sinon, si on mesure pas combien de temps il me faut pour contacter, je sais pas, suivant ce qu'on fait, tant de clients ou tant de potentiels clients, ouais, ça c'est important, hein, de mesurer le temps qu'on a. Moi, j'ai longtemps, au début de mon activité, travaillé à côté en attendant que ça se développe. Et je pouvais avoir tendance au début à me dire que j'allais continuer au même rythme. C'était quand même complètement aberrant. C'est-à-dire que je prenais des contrats d'intérim réguliers où je travaillais 35 heures et je me disais, oh, bah, je vais faire pareil. Bah, non, en fait, à moins de travailler la nuit, c'est pas possible, quoi. Et donc, il a fallu que j'apprenne aussi à ajuster ça et à me dire qu'il fallait que j'organise un peu mon emploi du temps un peu différemment, que j'apprenne aussi à prendre soin de moi. Parce que j'ai remarqué qu'il y a un truc aussi qui peut être une tendance. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Marquer toi autour de toi avec les personnes que tu accompagnes. En tous les cas, moi, comme j'accompagne des femmes qui ont des postes à responsabilité et qui ont quelquefois des enfants un peu petits, il y a peut-être une tendance qu'on peut avoir aussi, c'est que le premier truc qu'on va supprimer, c'est les trucs qui sont uniquement pour nous. Tu vois, tu parlais de bénévolat. On se dit, bon, déjà que j'ai mon entreprise, puis en plus j'ai les gamins à m'occuper, bon, bah, c'est pas grave, ma séance de sport. Tant pis, ou ma soirée avec les copines qui me ressourcent, qui me fout la pêche pendant des semaines. Bon, ben, tant pis, c'est pas grave, j'irai une prochaine fois. T'as remarqué ça aussi?
Ah ben complètement. Et du coup, ça peut amener de la frustration, là encore, et du coup, c'est pas bien. Et surtout, moi, dans ce que j'accompagne, c'est de se dire lâchez-vous la grappe. Tu sais, il y a aussi le truc dans les. Moi, les personnes que j'accompagne, souvent, elles sont en reconversion. Elles ont gardé les automatismes de salariés d'avant. Et du coup, avant, elles étaient salariées, donc de 8 h à 18 h, par exemple, elles étaient derrière leur ordi. Et donc, elles vont reprendre la même routine. Et puis, par exemple, elles vont se remarquer qu'à 15 h, bah, elles sont derrière leur ordi, mais il n'y a rien qui sort. Donc, moi, je leur dis, fermez l'ordi, allez marcher, faites quelque chose qui vous fait du bien. Et puis vous revenez après. Et là, elles ont un sentiment de culpabilité en disant, ouais, mais les autres, ils travaillent. Et j'ai envie de dire, mais attends, toi, tu as fait le choix d'être indépendant. Ce n'est pas de tout repos. Tu dois aller chercher chaque client. J'ai envie de dire, prends pas que les contraintes, prends aussi les avantages. Et de dire, finalement, quand tu vas revenir et que tu vas t'y remettre, tu vas sortir ce que tu as, tu vas sortir péniblement en restant derrière ton ordi. Et du coup, c'est ça aussi, tu vois, c'est d'intégrer. C'est hyper important des temps justement pour s'aérer le cerveau parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots et on a besoin de ça pour être à la fois bien dans son entreprise et bien avec sa famille. Et du coup, dans les astuces, moi, ce que j'ai, alors ça te fait sourire, mais c'est faire du vide dans vos agendas. Alors, tu vois, quand je dis ça à mes clients, elles me disent, bah, je peux pas. Mais si, tu vas voir, tu vas réussir. Et en fait, à partir du moment où elles ont bien défini leurs objectifs et qu'elles ont des actions intentionnelles, eh ben, elles vont se rendre compte que finalement, il y avait beaucoup de choses qu'elles faisaient qui n'étaient peut-être pas très ajustées et ça va leur libérer du temps dans l'agenda. Mais ce qu'on va aller gratter derrière, c'est ce que ça représente le temps pour elles. Donc, aller chercher toutes leurs représentations. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes, il y a la peur du vide, la peur de se retrouver face à soi-même. Donc on blinde l'agenda. Et puis, parce que comme ça, on a le sentiment que voilà, une vie bien remplie, et si j'ai rien socialement, qu'est-ce que ça annonce, tu vois? Et donc d'aller travailler ça pour s'autoriser à laisser du vide dans l'agenda pour faire la soupape, quoi. Et moi, je suis étonnée de voir maintenant comme des temps que j'ai réussi à mettre en place pour parler, hein, pour méditer et des temps qui sont de rien, enfin de rien de productif en fait, et juste d'être.
Ouais,
Mais c'est
c'est
pas
ça.
toujours facile au démarrage.
Ouais, c'est pas facile au démarrage, hein. Moi, j'avais du mal au démarrage. J'ai remarqué aussi y a eu des périodes, hein, où, comme tu le dis, voilà, allez, vas-y, il faut que tu écrives tes posts LinkedIn. Bon, ok. Là, tu te poses devant ton écran, il y a rien qui sort, tu soupires. Alors, je me levais 10 fois pour aller chercher un verre d'eau, me faire un thé, aller sortir le linge de la machine. Tu vois, et je me disais non, mais il faut que je m'y remette. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de ce truc-là. Ça servait absolument à rien. Et maintenant, quand je remarque que je rentre dans ce truc-là, j'enfile mes baskets, je vais faire un tour. Et puis je prends mon téléphone avec moi, avec le mode enregistreur, et je me dis allez. S'il y a des idées qui me viennent sur le chemin, là, j'en choperai 2, 3 et puis on verra bien. Et souvent, c'est assez surprenant en fait, dès qu'on se laisse cet espace, d'un seul coup, il y a plein de, enfin, sans forcément y aller pour réfléchir, mais du coup, c'est comme si on oxygénait. C'est aussi parce qu'on oxygène le cerveau, hein, parce qu'on va marcher. Donc, ouais, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui m'aidait.
Ah ben parce qu'on est tout focus, parce que ouais on pense à autre chose. Alors moi c'est un endroit, alors c'est pas très pratique, mais sous ma douche. Bon alors
Oui.
et donc tu vois, je sors de la douche et comme toi j'enregistre parce que ça c'est un bon moyen pour capter les idées. Et puis des fois moi j'ai remarqué aussi quand je me réveille, tu sais, avant de sortir mon lit, j'ai mon cerveau, il est en ébullition, mais en fait il s'est reposé la nuit et donc ça a laissé de l'espace pour recréer, pour ramener de la créativité. Et du coup, une des astuces, moi, que j'ai envie de donner, c'est aussi d'accepter de choisir et de se dire, bah, c'est quoi les priorités et d'accepter de renoncer par moment à certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on y renonce pour tout le temps. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, dans tout ce qu'on a, il y a des choses qu'il faut qu'on mette un peu de côté et à choisir lesquelles c'est pour éviter d'être vraiment dans la frustration permanente. Et puis après, tu vois, le cercle vicieux de ah ben j'ai pas fait ce que je voulais, ben, je suis nulle, machin, et l'auto-sabotage, quoi, qui en détruit.
Ouais, j'aime bien cette idée de choisir. Moi, j'adore cette idée de choisir. Parce que je dis souvent à mes clientes qu'elles ont le choix. Elles ont du mal à le comprendre. Elles me disent, mais non, je peux pas. Ah, si, si, des fois, le choix, c'est de rester dans une situation qui n'est pas optimum et qui, pour l'instant, est sécurisante pour soi. Qui, pour l'instant, voilà, j'avais une cliente pendant un moment qui acceptait d'être dans un poste qui ne lui plaisait pas trop, trop, mais qui lui permettait de développer certaines compétences. Et d'avoir ses compétences à mettre en avant sur un poste prochain. Enfin voilà, il y a toujours, c'est toujours une question de choix. J'aime bien l'idée que ce soit pas tout le temps comme ça. Il y a des moments où moi je vois que j'ai besoin de mettre de l'espace pour ma vie personnelle, privée. Et depuis que j'ai vraiment conscientisé que j'avais ce choix, que je pouvais faire ce choix. Ben je me dis, ok, là pour l'instant c'est pas grave, là pendant une semaine j'ai besoin de me focaliser sur ce truc-là dans ma vie privée parce que c'est important pour moi, et donc ben sur la vie pro il y aura un peu moins d'énergie, et c'est comme ça quoi. Tu vois, c'est comme si quand t'es maman, ton gamin il est malade, ben ok, ben il a besoin de toi quoi. Tu vas pas te prendre la tête avec ça et te dire, mon Dieu, comment je vais faire? Il y a un moment où ben il va falloir que tu sois un peu avec lui quoi.
Alors ça, je rebondis, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi de se déculpabiliser parce que tu sais, de dire, ah mince, j'avais des rendez-vous clients, je peux pas. Ben, en fait, on appelle son client, on lui explique qu'on doit décaler et dans les trois quarts du cas, ça va bien se passer. Pour la petite anecdote, moi, j'ai fait tiens, c'était un atelier justement où on parlait, faut-il donner des somnifères à nos enfants pour pouvoir travailler quand on est entrepreneur? Et en fait, on était trois à travailler sur cet atelier. Et en fait, moi, j'avais une semaine super chargée. On devait faire une vision ensemble et je sentais que là, j'allais pas m'écouter et j'allais aller au-delà de mes limites. Et du coup, j'ai pris le parti pris. J'aime pas, tu sais, de leur envoyer un message en disant, je suis désolée, mais demain, je vais annuler notre réunion. Et j'aime pas faire ça parce que je suis plutôt quelqu'un de fiable, tu vois. Et alors, Et en fait, là, il y a quelqu'un, une des deux personnes, elle me dit, ah, ben, t'es trop cool que tu fasses ça, parce qu'en fait, moi, j'osais pas demander, et ça m'arrange trop. Tout. Et donc, c'est dire, souvent, tu vois, on se fait une montagne, on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser, tout ça. Ben, posons, et puis en fait, de toute façon, les gens, ils pensent ce qu'ils ont envie de penser, on n'a pas de prise dessus. Mais au moins, moi, je me suis respectée à ce moment-là, et même pour elle, c'était plus juste parce que quand on a reprogrammé, ben, j'étais pleinement avec elle, plutôt que de me dire, ah, je suis fatiguée, je préfère être ailleurs. Enfin, et du coup, c'est de sortir de ce truc-là. Ben, notre enfant est malade, ben, c'est comme nous. Hein. Il se peut qu'un matin, on ne se lève pas. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Et donc, plutôt que de rentrer en confrontation en disant je veux pas, je veux pas, ben, c'est comme ça s'impose. Plus on l'accepte, plus on réagit et plus ça va se passer facilement. Et je voulais rebondir aussi sur choisir. Choisir, ça ne veut pas dire que c'est facile. Et c'est
C'est
ça
vrai.
aussi que j'amène, en fait. C'est dire on a toujours le choix. Mais oui, des fois, il y a des choix qui sont difficiles à prendre.
Ouais, c'est intéressant que tu dises que c'est pas forcément facile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, super. Bah écoute, merci hein, pour toutes ces astuces. Voilà, y en a un paquet là. Hein. Franchement, donc moi j'ai retenu que déjà il fallait se poser la question de quelle maman on voulait être, quel entrepreneur aussi on veut être. Hein, c'est-à-dire comment on va réguler notre rythme, à quelle vitesse, bien étudier notre planning, comment on est capable de développer son activité avec le temps qu'on a, et dans ce planning de laisser du rien. Du rien du tout. Ça, j'ai bien retenu aussi. Laissez du rien.
Tu vois, moi, j'ai lu, je ne sais pas si tu connais ce livre, La
Ouais.
semaine de 4 heures de
Oui,
Tim
je connais. Ouais.
Ferriss. Et il disait, à un moment donné, c'est vrai en fait, notre agenda, il devrait être rempli de moitié. Parce que dans la vie, il y a plein d'aléas et on ne peut pas tout prévoir. Et donc, si on veut que notre semaine se passe bien, il faut la programmer de moitié pour laisisser de la place à tous les aléas. Et ben, je serais curieuse de savoir, les personnes qui écoutent ton podcast, si elles regardent leur agenda, combien d'heures elles ont laissé pour les aléas de la vie?
C'est vrai, c'est une belle première chose à faire. Bah, vous nous laisserez un petit mot dans les commentaires pour nous dire ça. Super, c'est un bon mot de la fin. Bon, bah, merci beaucoup Delphine pour toutes ces pépites.
Ben écoute, avec plaisir. Et moi, ce que j'ai envie le mot de la fin, ça serait de dire oser, en tant que maman, lâcher du terrain à la maison pour permettre aux autres membres de la famille de s'emparer de la vie de la famille, de la maison.
Ouais, ça c'est une belle proposition. Ouais, j'adore. On te retrouve donc sur LinkedIn. Donc, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode et puis tu nous donneras des liens aussi si les gens veulent te contacter, peut-être pour faire une masterclass ou un atelier avec toi.
Ben oui, et puis je te mettrai le lien de ma Faciliabulette s'ils veulent me suivre. Un billet pour donner encore plus d'astuces pour être épanoui dans tous les pans de sa vie, notamment dans l'entrepreneuriat quand on est une femme. Et ça paraît tous les 15 jours.
Ouais, moi je la reçois et j'adore.
Merci, c'est gentil.
Belle soirée.
Merci, c'était un vrai plaisir.